225 jésuites du monde entier sont à Rome pour la 35e congrégation générale de la Compagnie de Jésus, avec au programme, entre autres, l'élection d'un nouveau supérieur général, appelé parfois le pape noir. Jean-Noël Aletti, pour la première fois dans votre histoire, les délégués ne venant pas du monde occidental sont majoritaires. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
Le phénomène vient de ce que, auparavant, pour nos chapitres généraux, pour nos congrégations générales, le nombre était fixé par province, donc il y avait un provincial et trois autres jésuites élus. Actuellement, ça se fait à la proportionnelle. Et comme le recrutement est plus hors d'Europe qu'en Europe, il se trouve que l'Europe devient minoritaire. Et donc probablement, l'élection se fera d'une autre manière que les fois précédentes.
Et ils viennent d'où ?
Vous voulez dire ceux qui sont majoritaires ?
Oui.
Alors ceux qui sont majoritaires viennent principalement de l'Inde.
Oui.
Il y a une quarantaine de délégués indiens, donc ce qui fait quand même un certain... S'ils décident de voter tous pour le même, ça fait déjà un poids assez énorme, enfin, par rapport au reste de la congrégation.
Et ça pourrait arriver ?
Un indien actuellement, je pense que dans le futur, oui, ça arrivera. Actuellement, ça m'étonnerait. Je pense qu'on ira plutôt vers l'Amérique latine, si ce doit être un non-européen. Mais il se pourrait qu'on revienne vers l'Italie.
Les défis aujourd'hui en Inde et en Amérique latine pour un jésuite, quels sont-ils ?
Alors, en Amérique latine, c'est donc il y a le problème des sectes, qui est un problème religieux, mais il y a aussi un problème, disons, d'extrême pauvreté avec une extrême richesse, donc des problèmes sociaux énormes et des choix à faire. Faut-il privilégier l'enseignement et l'enseignement des pauvres ou des riches, etc. Donc, il y a des choix à faire qui ne sont pas évidents en Amérique latine et qui vont déterminer quand même la physionomie de la compagnie dans ces pays-là. En Inde, c'est plutôt les problèmes religieux. Donc, une société multireligieuse avec une réflexion qui est tout à fait naturelle dans le christianisme, puisque le christianisme est théologique, ne peut pas ne pas être théologique. Et donc, il va y avoir certainement un poids qui sera différent si nous avons un général venant d'Amérique latine ou un général venant d'Inde. L'Inde est plutôt portée vers une réflexion de type religieux, conflit entre religions, problème d'inspiration des livres non chrétiens, non juifs, etc. Donc c'est toute une configuration qui va se déterminer en fonction du général que nous aurons.
Est-ce que la compagnie a besoin de prendre un nouvel élan ?
Il faut toujours prendre de l'élan. Il y a un élan.
C'est un élan, de quel élan s'agit-il ?
Alors, de quel élan s'agit-il ? La problématique de la compagnie, si vous voulez, est qu'en fin de compte, nous n'avons pas de mission particulière. Nous avons une mission qui est adaptée en fonction des continents et en fonction des problèmes. Donc, c'est extrêmement difficile pour un général de dire « nouvel élan », mais de quel côté ? Puisque les problèmes en Amérique latine ne sont pas ceux de l'Inde, ne sont pas ceux du Japon, ne sont pas ceux de l'Europe. Donc, en Europe, on a le vieillissement, on a des problèmes de gestion, d'ordre religieux qui ont un renouveau extraordinaire au niveau spirituel. Dans tous les ordres religieux que je connais, apostoliques et non-apostoliques, femmes et hommes, il y a un renouveau extraordinaire, mais les vocations ne sont plus là. Sauf dans les nouveaux ordres, mais c'est un problème parce qu'eux aussi commencent à connaître dans nos régions européennes une certaine érosion. Donc c'est un problème de culture et un problème de civilisation. Mais disons, nouvel élan, c'est très difficile pour un général de donner un nouvel élan. Je pense que le nouvel élan, il se fera, disons au pluriel, de nouveaux élans en fonction des régions, des continents, des problèmes qui sont à affronter ici et là. Mais c'est un fait que la compagnie n'aura pas le même visage dans 50 ans que maintenant. À cause du recrutement massif dans les régions non européennes, donc à cause de la vitalité de ce qu'on appelle maintenant le tiers-monde, et d'une certaine fatigue, d'une certaine érosion, oui, érosion, non pas au niveau intellectuel, mais au niveau des institutions en Europe.
Et vous, quelles sont vos espérances ?
Mes espérances, c'est-à-dire, moi, de mon point de vue, de mon pauvre point de vue un peu de jésuite bibliste et exégète, je pense que le problème actuel de la compagnie, c'est qu'elle garde une liberté de parole. Ça, c'est très très important dans une église où il faut des gens qui puissent faire avancer la théologie. La liberté et la création ne peuvent venir que d'une confiance accordée à un corps apostolique comme celui de la compagnie. On n'est pas les seuls. Je pense que tous les ordres religieux sont invités aussi à créer. Mais c'est vrai qu'actuellement, nous avons une crise dans mon secteur à moi, qui vient de ce que la pensée théologique a été occidentale. Et que cette pensée théologique occidentale, qui a été le fait des prêtres et des religieux et des religieuses maintenant qui sont associés, parce qu'il y a de plus en plus de religieuses qui ont les compétences pour penser théologiquement, la raréfaction des vocations provoque une raréfaction de la pensée théologique. Et donc, il faut associer les laïcs, à mon avis. Ça, c'est nécessaire. Donc, il faudra favoriser une culture du monde laïque. Il y a un certain nombre de gens qui sont tout à fait compétents et qui pourraient l'être si on leur donnait la possibilité de l'être. Le problème, c'est a-t-on confiance en eux ? Alors, je pense qu'actuellement, la difficulté dans notre champ théologique et exégétique, c'est que l'efflorescence qui pourrait venir enrichir la théologie et l'exégèse viendrait de ces régions qui sont en plein développement. Le problème, c'est que ont-ils les moyens des idées qu'ils ont ? Voilà. C'est une grosse question. Alors, il faudra un général qui soit capable à la fois de laisser assez de liberté à ses troupes pour qu'elles puissent penser, mais qui soit aussi assez courageux et assez ferme pour éviter des conflits avec les autorités, etc.
Est-ce que la mondialisation est une aubaine pour les jésuites ?
Nous avons toujours été affrontés à des problèmes vraiment différents et un peu mondiaux. Alors, je pense que la mondialisation telle qu'on la voyait avant, c'était européisation ou occidentalisation. Actuellement, c'est plus possible, cette chose-là. Donc, il faut penser à la mondialisation en voyant qu'en fin de compte, il y a une certaine régionalisation de la mondialisation. Alors, je pense que c'est ça, pour nous, l'enjeu. Par exemple, nous, on s'occupe beaucoup au niveau réfugiés. Bon, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits à ce niveau-là. On a pas mal de jésuites dans les camps de réfugiés, Thaïlande, en Afrique. Mm-hmm. Plusieurs jésuites sont avec les pauvres et avec les déracinés, que ce soit au Darfour, que ce soit en Afrique centrale, même en Afrique du Sud. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Je pense que c'est plutôt actuellement un accompagnement plus qu'une politique vraiment pensée et quelque chose d'organisé. Il y a des responsables, il y a des gens qui ont été envoyés. Il y en a une bonne trentaine de jésuites qui sont à plein temps dans ces camps de réfugiés, qui viennent tous d'ailleurs, n'est-ce pas, d'Occident, mais qui n'ont pas encore, je pense, eu les moyens d'organiser ou d'avoir une pensée politique qui soit capable d'aider les gouvernants actuels à traiter ces problèmes-là.
Est-ce que la Compagnie des Jésuites n'a pas pour principal objectif le dialogue, et le dialogue avec les cultures séculières ?
Ah oui, je crois que c'est vrai. La mission de la Compagnie, c'est d'être au service du pape. À l'époque de Saint-Ignace, pourquoi on a choisi cette solution-là ? C'est parce que finalement, pour être un ordre religieux, il fallait avoir une mission particulière. Les frères prêcheurs, vous aviez les pauvres, les franciscains, vous aviez donc, etc. Les jésuites, qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Donc, alors, on a dit, comme on ne sait pas très bien ce qu'on va faire, on va se mettre au service du pape. Et le pape nous dira quelles seront nos missions.
Alors,
donc,
aujourd'hui, comment ça se gère,
alors,
ça ?
Ça se gère, c'est que le Saint-Père nous donne des indications globales, en fonction, lui, des préoccupations qui sont les siennes. Mais je pense que c'est plutôt à nous, disons, d'organiser les moyens de la mission qui nous est confiée chaque fois. Bon, si le Saint-Père nous demande, par exemple, de nous occuper de l'athéisme, comme il l'a fait, Paul VI avait fait ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas que les jésuites qui s'occupent de l'athéisme, et tant mieux. Mais c'est la manière de le faire. C'est-à-dire, si on nous confie une mission, je pense que vous avez raison, c'est au niveau du dialogue, de la franchise, de la liberté, de dialogue avec les... Et je pense que c'est un fait, même si nous n'avons pas toujours respecté cela, d'être en dialogue avec les cultures séculières. C'est-à-dire d'avoir un rapport au monde qui n'est pas un rapport négatif, qui n'est pas un rapport de peur, mais qui est un rapport de dialogue, ne serait-ce qu'au niveau scientifique, bon, par exemple au niveau du dialogue avec l'évolution, les problèmes évolutionnistes, les problèmes, le fameux créationnisme actuel, toutes ces histoires-là. Je pense que la Compagnie est naturellement, enfin disons, viscéralement orientée vers un dialogue avec le monde séculier. Je pense que nos ordres religieux anciens ont un rapport au monde qui est beaucoup plus positif et qui est surtout, disons, qui s'inscrit dans la durée et qui s'inscrivant dans la durée a eu la possibilité de dialoguer. Et donc il faut du temps pour pouvoir épouser une culture, pour pouvoir voir ce qui fait son fort et son faible.
Est-ce qu'on peut dire que l'élan qui pourrait survenir de cette congrégation générale serait de l'ordre de l'accueil, de l'ouverture, du dialogue et finalement de plus de paix ?
Je crois, oui, du dialogue, oui, tout à fait. La mondialisation, ça veut dire d'abord le dialogue avec d'autres cultures. Ça ne veut pas dire qu'on va tous devenir uniformes, mais qu'il faut aller vers un dialogue. Il est d'abord à faire entre nous. Par exemple, sans uniformiser, comment peut-on conserver un véritable esprit, une unité dans la diversité. Ce que saint Paul disait, par exemple, aux premiers chrétiens, c'est qu'ils n'avaient pas à devenir tous juifs. Bon, l'uniformité. Voilà. Et donc, on pouvait être chrétien en vivant dans des cultures différentes. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Je pense que la tentation qu'on a et que tous nous avons, c'est la peur, c'est de voir l'autre différent. Et que le christianisme a montré, nos ordres religieux ont montré en les vivant, qu'en fin de compte, on peut vivre une profonde unité dans la foi, dans la diversité et des cultures et, je dirais, des civilisations. Donc là, il y a quelque chose à montrer au monde. On a à être les témoins de ça.
Et les jésuites particulièrement.
Et nous particulièrement, parce qu'on est né de la diversité.